Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour notre rencontre de ce soir. Nous reprenons ce soir notre programmation habituelle après une semaine qui a été consacrée à la pratique du sadhana de Chenrezig, du fait de la retraite qui avait lieu spécifique. Donc notre soirée est consacrée lundi soir au Vajrayana. Il y a une semaine, la dernière soirée, nous avions déjà parlé de la pratique de Chenrezig. Nous l'avons fait pendant toute cette semaine et ce soir, nous allons faire le lien, une transition avec la série du Vajrayana qui va commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous commencerons toute une série Vajrayana à partir du manuel des études tibétaines de Vajradhara Kanuri Mpoche. Donc, en suivant son plan. Ce soir, donc, une transition. Et je voudrais vous parler principalement du rôle de la pratique de Chenrezig à la charnière du Mahayana et du Vajrayana. Alors, d'abord, quelques éléments de rappel. La voie du Bouddha commence avec ce que l'on nomme la voie de libération personnelle, ou la voie de développement de la personne authentique. C'est la pratique de la pleine présence et de l'éthique de la règle d'or. Ensuite, la voie universelle continue avec l'interpersonnel et la dimension d'interdépendance relationnelle fondée sur la bonté, l'altruisme, la bienveillance. Lors de la première étape de développement de la personne authentique ou de libération personnelle, correspond aussi dans la pleine présence à l'approche qui se nomme maintenant MBFT, Mindfulness Based Fundamental Training. Le deuxième niveau est la pratique de l'entraînement du cœur et de l'esprit, la pratique de bodhicitta en termes bouddhistes, ou autrement, altruistic-based fundamental training, entraînement fondamental basé sur l'altruisme et la bienveillance. Donc tout cela constitue la voie universelle, universelle car naturelle, naturelle donc universelle. Il y a ensuite la troisième voie, qui est la voie initiatique, avec les yogas symboliques et énergétiques qui sont spécifiques à la voie initiatique. Et c'est là que se situe la pratique de Chenrezig. Chenrezig, immense bonté, la bonté éveillée, est une pratique qui est à la fois une pratique pleine du Vajrayana, c'est-à-dire de la voie initiatique, et qui est en même temps le cadre pour toute la pratique du Mahayana, pour la pratique de Bodhicitta. Chenrezig et bodhicitta en personne, la personnification de l'amour et de la compassion éveillée. La pratique de Chenrezig est une façon particulièrement profonde de développer bodhicitta, de cultiver bodhicitta, l'ouverture du cœur et de l'esprit. Donc, on peut aborder cette pratique de Chenrezig comme une pratique de la voie universelle générale ou comme une pratique véritablement du Vajrayana. Tant et si bien que c'est une pratique qui est souvent ouverte. Les pratiques de la voie initiatique demandent une initiation. Les pratiques de la voie universelle demandent des instructions, mais sans qu'il y ait, à proprement parler, une initiation. Donc, la pratique de Chenrezig, dans son caractère universel et de bienfait universel, le sadhana se nomme, la pratique de Chenrezig se nomme un bienfait pour tous les vivants. C'est une pratique qui est bienfaisante et qui développe bienveillance eu égard à tout un chacun, eu égard à tout vivant. Donc c'est une pratique véritablement universelle. C'est la raison pour laquelle Vajradhara Kadwa Rinpoche a développé cette pratique dans le monde entier. Il l'a enseigné sur tous les continents. Il l'a proposé dans tous les centres du Dharma qu'il a fondés de par le monde. Et c'est une pratique qui à laquelle on peut se joindre, que l'on peut suivre, même si l'on n'a pas eu d'instruction particulière. Alors bien sûr, on n'y comprendra pas grand-chose, mais néanmoins, il y a une inspiration, une bénédiction et un bienfait. Ne serait-ce que de réciter une seule fois « Om Mani Padme Hum », cela a un bienfait inimaginable, inimaginable. Om Mani Padme Hum. Le fait de le dire, le fait de l'entendre, le fait d'y penser, ou même de le toucher, il faut qu'il soit gravé ou écrit, mais le contact sensoriel avec Om Mani Padme Hum a un pouvoir libérateur. Donc, la pratique de Chenrezig est ainsi à la charnière du Mahayana et du Vajrayana, et c'est une introduction au Vajrayana. Et c'est dans cet esprit que nous la transmettons, que nous la pratiquons, comme le fit Vajradhara Kadwa Rinpoche. Nous allons donc ensuite, envisager le Vajrayana plus spécifiquement et d'une façon détaillée en suivant le manuel des études bouddhistes. Et ce soir, je voulais, pour commencer, simplement faire ce lien, que vous compreniez le rôle et la place de la pratique de Chenrezig. Alors, nous sommes ce soir, il y a une session d'introduction, donc sans doute avec des personnes peut-être qui viennent ici pour la première fois. Il y a aussi une retraite de Chenrezig que conduit Alma Denis. Et nous pourrions avoir la deuxième partie de notre rencontre avec un échange à partir soit de ce que j'ai dit ou des questions qui peuvent vous être venues vous ici dans l'une ou l'autre de vos sessions. C'est à ce point que je vous passe la parole.
Bonsoir, Rinpoche.
Bonsoir. Dites-nous votre prénom d'une façon générale.
Laurent.
Bonsoir, Laurent.
Oui, vous parliez du mantra Om Mani Padme Hum, qui a un certain pouvoir. Et pourquoi alors il y a une représentation de Chenrezig ?
Pourquoi il y a une représentation de Chenrezig ? Parce que le pouvoir libérateur est dans la forme, dans le son et aussi dans la pensée. Il y a ces trois dimensions. Et c'est une spécificité des pratiques du Vajrayana que d'amener une pratique, de faire pratiquer dans les trois dimensions de notre personne. Notre personne, ce que je suis, est envisagé comme corps, parole, esprit. Corps, parole et esprit. Et parole, la parole étant associée au souffle, la parole étant du souffle articulé, mais ces trois dimensions. Le corps est aussi associé à la forme. Il y a les formes visuelles et la forme corporelle. Donc, c'est ce qui est du visuel. Et il y a, au niveau donc, de la sphère visuelle, une représentation de Chenrezig, une représentation symbolique qui exprime l'immense bonté, la bonté éveillée dans le symbole personnel ou bodhicitta en personne, je vous disais, ou la bonté en personne personnifiée dans l'apparence et l'iconographie qui est celle de Chenrezig. Et puis la sphère sonore, verbale et sonore, tout ce qui est son, correspond au mantra, qui est aussi associé à la parole de Chenrezig. Et au niveau de l'esprit, il y a la présence de l'état de bonté, bienveillance, amour, compassion, l'expérience aussi de l'élan, la présence avec les différentes qualités qui peuvent être celles-ci en notre esprit. Voilà. Et ainsi, dans une pratique du Vajrayana, il y a un mudra, mantra et samadhi. Mudra signifie geste et est lié à la dimension corporelle et aussi à la forme visible, donc au visuel. Et il y a une communication et un pouvoir dans le geste. La communication n'est pas que verbale, elle est aussi visuelle, elle est aussi physique. Donc, il y a mudra. Mantra, c'est la formule sonore, comme Om Mani Padme Hum. Et le mantra est à la fois une invocation de la présence et a aussi un pouvoir protecteur de l'esprit. Et la dimension spirituel, qui est le samadhi. Samadhi signifie l'expérience profonde, qui est l'expérience même des qualités et de ce dont il s'agit dans la présence, la confiance, l'amour, la compassion. Voilà.
Est-ce que cette représentation, comment elle a été établie, suite à une sorte de vision ou...
Toutes les... c'est une question importante, très importante. Parce que, effectivement, Chenrezig, aujourd'hui, a une apparence avec une iconographie indienne, indienne classique. Lorsque la pratique de Chenrezig s'est développée en Chine, Chenrezig a pris une apparence chinoise. Il y a des Chenrezig en costume traditionnel chinois. Enfin, le symbolisme a été transposé. Donc, on pourrait se poser la question, en toute bonne logique, si on pourrait avoir aujourd'hui des Chenrezig en apparence occidentale, costume trois pièces, ça le ferait bien, avec une cravate, éventuellement un chapeau. Alors, voilà, vous voyez, tout de suite le résultat que ça donne. Il y aurait aussi une autre façon de faire qui est utilisée certaines fois, c'est d'être tout nu. Chenrezig tout nu, comme ça, quand on est tout nu, c'est ni indien, ni chinois, ni occidental, c'est dépouillé. Donc toutes ces options sont virtuellement ouvertes. Bon, c'est bien, ça réjouit certains, c'est un plaisir. Alors, d'où vient le symbolisme traditionnel, le symbolisme de différentes déités? Il vient effectivement de vision, et c'est le point important. Et pour comprendre la nature du symbolisme traditionnel, il est important de faire une distinction entre nature et culture. C'est un grand classique, le cru et le cuit. Mais la nature est universelle. La culture, elle, est spécifique. Chaque langue, chaque société, chaque matrice sociolinguistique à sa culture. Mais la nature, elle, est commune. Que l'on soit chinois, indien ou français, nous avons en tant qu'humains le même corps et la médecine soigne aussi bien les Indiens, les Chinois que les Français. Donc, une même nature avec des cultures différentes. Et il y a dans le cheminement spirituel des expériences de la conscience, des états modifiés de la conscience, des états d'ouverture de la conscience, des états de libération de la conscience, comme par exemple, pour prendre une situation très simple. Lorsque l'on s'évanouit, on part dans une clarté blanche, pour faire simple, quand on tombe dans les pommes. Ça, c'est qu'on soit français, indien ou chinois, c'est pareil. La perte de conscience, dans sa séquence et dans son déroulement, n'est pas quelque chose de culturel. Par contre, la façon d'en rendre compte et de l'interpréter peut devenir culturelle. Exemple, les expériences de mort imminente, les EMI. Il y a eu des études qui ont été faites donc, sur des personnes en coma et en coma dépassé. Bon, tout ça est assez bien connu aujourd'hui. Et on a mis en évidence des études comme celle du docteur Moody, où il y a eu même ici deux thèses de médecine qui ont été faites sur le sujet. Un paradigme avec différentes étapes qui correspondent d'ailleurs à celles du Bardot-Tudel. Et il y a donc quelque chose de naturel dans le caractère universel de ces étapes qui sont celles finalement aussi de la dissolution de la conscience. La perte de conscience dans l'évanouissement est une dissolution rapide de la conscience, analogue à celle que l'on vit au moment de la mort. Mais il y a donc un niveau naturel, et dessus vient se greffer un niveau culturel. Alors, exemple, toujours dans ces expériences de mort imminente, il y a des personnes qui a la lumière blanche qui apparaît, qui voit dedans un vieillard barbu qui vient leur ouvrir des portes ou leur donner une clé. Des images qui sont connotées d'une tradition monothéiste ou autre. Alors, disons, chacun amène avec son bagage et ses imprégnations culturelles une interprétation qui se surimpose au niveau naturel. Donc, une fois que l'on comprend bien ce double niveau, naturel, fondamental, et culturel, superficiel, qui se surajoute, comme la carte et le terrain, on peut avoir une meilleure compréhension du symbolisme traditionnel, qui est fondé sur une vision naturelle. Et des expériences de clarté, des expériences de lumière, de clair-lumière, sont à l'origine du symbolisme traditionnel. Et effectivement, ce sont des visions qu'ont eues des personnes réalisées, des grands accomplis, qui ont vu Chenrezig, ou qui ont vécu l'expérience spirituelle de sa présence, et qui ont retranscrit cette vision d'abord dans une dimension de clarté naturelle. Et ensuite, il y a sur le fond de cette expérience, cette vision naturelle, aussi une strate culturelle. Alors, culturelle et aussi naturelle. Là, la distinction et la frontière est assez difficile à bien délimiter. Mais quatre bras pour Chenrezig expriment les quatre dimensions de la bonté. L'amour, la compassion, la joie, l'équanimité. Ça n'est pas culturel. Les noms là, en français sont culturels, mais la bonté, l'empathie, la façon de le catégoriser peut se faire avec des variations suivant les langues et les cultures. Et des détails de l'iconographie ont un caractère traditionnel, un caractère culturel. Alors, Chenrezig avait des drapures, des voilages, des draps, c'est des voilages, et des ornements, c'est très, très indien. Mais en même temps, l'or et les joyaux procèdent d'une vision et de quelque chose qui n'est pas culturel. Donc là, c'est imbriqué. Et il est nécessaire, lorsque l'on aborde un symbole et une pratique symbolique, la pratique d'une déité comme Chenrezig, d'avoir une initiation justement à sa signification. Car en l'absence de cette initiation, on peut partir dans des compréhensions théistes, anthropomorphes, ou toutes sortes de mauvaises compréhensions. Voilà. Mais donc, en résumé, ça procède effectivement de visions spirituelles et aussi d'une certaine expression symbolique qui nécessite une présentation, une initiation.
Merci.
Derine.
Bonsoir, Rinpoche. Une question d'Adriano de Naples.
Adriano, bonsoir.
Bonsoir. Il y a un point que je ne comprends pas bien. On a dit précédemment qu'on peut associer la phase de génération à l'amour-compassion et la phase de perfection à la compréhension immédiate. Je voudrais savoir, le mantra, on peut le considérer comment ? Je veux dire, quel est le rôle de l'empathie et du point sensible pendant la récitation du mantra ?
Le mantra Om Mani Padme Hum évoque l'empathie, invoque l'empathie et est une façon d'entrer en empathie. Le mantra a un pouvoir empathogène. Empathogène, amenant l'empathie, au sens où il amène une qualité de présence. Et la présence authentique, est empathique. Il y a une relation très importante entre présence et empathie. La présence authentique est l'état dans lequel on fait corps. C'est un état d'incorporation. Faire corps, avec la situation, faire corps avec l'expérience, être 100% présent, c'est-à-dire 100% absent, et c'est en étant absent complètement que l'on est complètement présent. Alors, il y a un paradoxe. Mais c'est lorsque je suis incorporé dans l'expérience qu'il y a cette pleine présence et que dans cette incorporation, il y a aussi empathie. Le mantra Om Mani Padme Hum amène la présence de Chenrezig au niveau relatif, c'est-à-dire relationnel, en soi et dans les autres, et amène une relation de cœur à cœur, de Bouddha à Bouddha, de Chenrezig à Chenrezig. Donc, il y a, ainsi associé à la phase de génération, cette relation de cœur à cœur, d'empathie. Et le mantra en est le rappel, en est l'invocation, comme nous disions. Et d'autre part aussi, ou pas vraiment d'autre part, mais aussi, lors de la phase de perfection, qui est une simple présence instantanée et immédiate, présence d'instantanéité immédiate, il y a ces bodhicitta absolus, ça peut se dire aussi l'état de Mahamudra ou l'état de Chen. C'est l'empathie absolue. Dans la non-dualité, la non-dualité est l'empathie parfaite, sans séparation. Donc, et le mantra peut-être aussi un rappel pour développer ou plus, mieux cultiver, intégrer cet état d'incorporation, de non-dualité et d'empathie non-dualiste. Le mantra lui-même Om Mani Padme Hum commence avec Om, termine avec Hum. Om qui signifie et qui exprime les trois dimensions de l'éveil. Hum qui exprime les cinq dimensions de l'énergie éveillée et de son action. Et Mani Padme, un joyau dans le lotus, joyau du lotus. Lotus ayant le sens d'esprit, c'est le calice de l'esprit, et c'est le calice de l'ouverture. Le lotus, c'est l'ouverture de l'esprit, l'ouverture d'un esprit tout dégagé, comme une corolle épanouie, une parabole tout ouverte. Et dans ce lotus demeure le joyau de l'éveil, qui est aussi le joyau de l'immense bonté. On peut mettre lotus et joyaux en rapport avec bodhicitta, relatif, absolu. Et ce joyau qui est dans l'esprit ouvert, l'esprit éveillé, est bodhicitta. Donc, l'expression du mantra est une façon aussi d'invoquer, d'évoquer bodhicitta, de s'en souvenir et d'y revenir dans sa vie continuellement. S'il vous plaît.
Une autre question de Catherine d'Albertville.
Catherine d'Albertville, bonsoir.
Alors, c'est toujours lié aux deux phases, Kerim et Dzorim, et à la récitation du mantra. En fait, quand elle récite le mantra, ça lui arrive de faire des brèves pauses pendant la récitation, et elle expérimente un état tout ouvert, où les pensées sont suspendues. Et ça nourrit sa confiance, elle est stimulée pour poursuivre la récitation ensuite. Et de même, dans la phase de perfection de Dzorim, la phase silencieuse, il y a des moments où elle commence à avoir plein de pensées, donc elle recommence le mantra.
Oui, très bien.
Et en fait, ce qu'elle voulait vous demander, c'est comment pratiquer avec discernement et intelligence ces deux phases. Comment alterner?
Déjà, c'est important de comprendre que la façon dont elle procède, c'est très bien. Et justement, on alterne, il y a une alternance entre forme et non-forme. Lorsque l'on est dans la pensée, eh bien, c'est l'occasion d'entrer dans la forme de Chenrezig et de substituer à des pensées habituelles les pensées de Chenrezig qui se dissolvent et amènent à la présence ouverte sans forme. Et si des pensées reviennent, on revient à la forme qui nous ramène au sans-forme, et ainsi d'alterner suivant les circonstances, suivant les besoins, et aussi longtemps qu'il y a l'expérience de présence ouverte, dégagée, nue, dépouillée, c'est parfait, et c'est même la phase de perfection. Et lorsqu'il y a pensée, discursivité, lorsqu'on se met à gamberger, de revenir justement à la présence formelle avec la représentation et le mantra. Le mantra pouvant être, nous l'évoquions tout à l'heure, aussi bien d'ailleurs un rappel pour la présence formelle que pour l'expérience sans forme. Voilà. Très bien. À ce point, s'il y a une dernière question, on peut l'aborder. Autrement, je vous propose que nous passions à la dernière partie. Derin, s'il vous plaît.
J'aurais une question personnelle très rapide. Quand on rentre dans le Vajrayana, on a de plus en plus de mantras différents. Quelle est l'importance de la compréhension des mantras, de leur signification?
Il y a beaucoup de mantras. Ce qui est important, c'est d'en pratiquer un. Si on en pratique profondément un, on les réalise tous. Si on en pratique beaucoup superficiellement, dans le papillonnage, on risque de rester à une pratique superficielle qui n'amène pas de réalisation véritable. Donc, l'important est de se familiariser avec un mantra et avec la pratique associée et d'entrer profondément dans celle-ci. Un mantra les résume tous, s'il est pratiqué profondément, alors que tous pratiqués superficiellement n'amènent la réalisation d'aucun. Que disiez-vous autrement ?
La compréhension de la signification du mantra.
La signification du mantra, pas très important. si ce n'est d'une façon générale, c'est l'invocation d'une présence. Donc, il est Om Mani Padme Hum et invoque l'immense bonté, invoque l'empathie, comme nous disions tout à l'heure, invoque l'amour-compassion. Donc, d'avoir ce sens. Après, on peut comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus en détail, il y a beaucoup d'interprétations, les six syllabes peuvent correspondre à six, purification des six mondes, transmutation. Mais le mantra, fondamentalement, est là pour se substituer à notre bavardage mental. Donc, si le mantra devient source de bavardage mental en dissertant sur sa signification, son symbolisme, blablabla, cela devient contre-productif. Donc, simplement de le réciter en présence, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, et de rester dans la présence de cette simple récitation, c'est parfait. S'il vous plaît.
Pendant mon cheminement sur Saint-Jacques, les mantras, ils arrivaient à moi en fonction de mon humeur. Ça pouvait être très bien celui de Mahakala, ou de Chenrezi, ou de Tara. C'est lié à quoi? Le fait que c'est l'émotion elle-même qui amène le mantra, ou c'est le mantra qui apaise l'émotion dans ces cas-là?
Dans la mesure où, effectivement, différents mantras sont susceptibles d'être associés à différentes humeurs, à différentes émotions ou à différents états, ils peuvent, lorsqu'on les connaît, et aussi de par leur nature même, être associés à ces différents états. Donc, oui, ça peut arriver. Mais c'est bien, c'est bien. Et ce qui est important, c'est d'intégrer la situation avec la récitation du mantra.
Donc on ne risque pas de se perdre dans le...
Ça dépend. Et à trop en faire, ou en même temps, un seul mantra, comme Om Mani Padme Hum, est polyvalent. Il est tout terrain, toute émotion et toute situation. Donc, et si on le pratique associé à la marche, on peut même, comme les Tibétains, en faisant des prosternations, on peut faire comme ça des grands pèlerinages. Trois pas, une prosternation. Om Mani Padme Hum.
Je ne serais pas revenu.
Om Mani Padme Hum. C'est très bien. En tout cas.
Merci.
Pour terminer, oui, d'annoncer qu'il y a un projet d'enregistrer les pratiques du soir et du matin pour qu'elles soient disponibles sur le webcast pour nos amis qui sont ailleurs. Donc, elles vont être bientôt disponibles. L'équipe du webcast est sur le projet. Et l'équipe m'a demandé, et particulièrement son vaillant directeur Aurélien, de vous annoncer cet événement. Et c'est aussi l'occasion de mobiliser tous les officiants que nous puissions faire ces enregistrements dans les meilleures conditions et avec la meilleure qualité pour pouvoir offrir à tous nos amis le meilleur support et accompagnement de pratiques possibles. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Om mani padme hum, que tout soit propice. Bonsoir et au revoir.